Astaire, seule star du tiers monde, t'as soulevé le monde en histoire.
Voilà pour une nouvelle édition de la reprise des émissions de Comaguerre sur Radio Galère, comme tous les mardis de 14h à 15h. Nous revoilà, mais nous n'étions pas très très loin de l'actualité, bien que, et je vais commencer par dire quelques mots sur la France, on vous a fait croire, enfin on a fait croire à la population française qu'elle était dans une bulle olympique et que le reste du monde n'était pas très actif, il se passait presque rien. Vous allez voir, à écouter cette émission, qu'il se passait beaucoup de choses. Il se passait beaucoup de choses, comme il s'en passe beaucoup d'ailleurs, en général, dans ces périodes creuses de vacances du mois d'août, parce que, en fait, l'actualité ne s'arrête pas, et il y a beaucoup d'endroits où elle ne s'est pas arrêtée du tout. Mais je commence par la France, puisqu'en fait, on était dans cette bulle, on en est sorti officiellement, et en fait, même pas dans cette bulle, le chef de la bulle, celui qui nous faisait croire qu'on était heureux, sympathique, patriote, etc. et tout, prenait des décisions qui relevaient éminemment de la politique pure. Je vais commencer par un événement de politique internationale, puisque le président de la République s'est cru obligé, enfin a eu le culot, j'allais dire, de changer fondamentalement la politique de la France par rapport au Sahara occidental. Vous savez que cette politique qui a été fixée par l'ONU, qui dit qu'effectivement cette ancienne colonie espagnole a le droit d'autodéterminer son avenir, que le Maroc a fait croire qu'il était d'accord et en fait il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il a envahi ce pays-là militairement avec des dizaines de milliers d'hommes, il a construit une espèce de mur tout autour. Enfin, le Maroc a fait comme si l'ONU n'existait pas, mais il n'est pas le seul puisque le Maroc prend exemple à Israël qui fait pareil. Bon. Et donc en fait, la position de la France était la position diplomatique correcte de la majorité des États. L'ONU a dit qu'il devrait y avoir un référendum d'autodétermination. Hélas, c'était dans les années 70, il n'a toujours pas eu lieu, mais il n'est pas question de dire que maintenant le Maroc s'est approprié une ancienne colonie espagnole. Or, c'est exactement ce que M. Emmanuel Macron a fait pendant que, soi-disant, tout le monde regardait les Jeux Olympiques. Donc il a fait un acte politique, de politique en général grave, qui met en cause des positions françaises de longue date, qui insulte l'ONU, pas la seule fois, qui s'aligne sur la position à la fois sioniste et marocaine sur cette question de l'autodétermination des colonies, c'est un geste extrêmement fort. Or, c'est passé entre deux médailles. Alors, il a une médaille du cou tordu. Je lui donne la médaille du cou tordu à M. Emmanuel Macron, c'est-à-dire changer la politique de la France. Oui, ça, voilà. Pour un sujet qui n'est pas mince, parce qu'après tout, le Sahara espagnol, c'est pas très très loin. Le Maroc, la France a des liens assez importants avec le Maroc, et donc c'est pas tout à fait neutre, c'est même pas neutre du tout. C'est un coup de force politique, diplomatique, qu'il a fait tout seul, en l'absence même pas de gouvernement. Et alors, le gouvernement s'est expédié les affaires courantes, est intérimaire, on est dans une imprécision très très grave. Ce gouvernement qui est quand même en train de préparer un budget pour l'année 2025, alors qu'un budget, ça doit être voté par le Parlement, après toute une série de préparatifs, ben là, il n'y a pas de préparatifs. Le gouvernement qui n'existe pas existe quand même et il prépare un budget pour l'année prochaine, dont on nous annonce que ce sera un budget d'austérité. Alors ça, annoncer un budget d'austérité, c'est faire un acte politique de gouvernement. C'est-à-dire que c'est démissionnaire, l'équipe d'Attal prend des décisions qui engagent la France pour toute une année à venir, et en fait, ils n'en ont pas le pouvoir. Donc on est dans cette situation d'abus de pouvoir, d'excès de prise de position. Et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter. Parce que, en fait, ces derniers jours, vous avez vu qu'une fois la parenthèse officiellement fermée, on a dit « Allez, vous pouvez à nouveau vous exprimer, les petits. On va reparler un peu de politique, on va reparler peut-être d'un gouvernement à venir, etc. » Et là, tout le monde s'est remis à parler après cette espèce de silence politique qui a duré pendant plusieurs semaines. Bon. Et le premier qui a été critiqué pour avoir dit quelque chose de pertinent, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a été critiqué. Pourquoi ? Alors d'abord, il y a des gens qui critiquent systématiquement Mélenchon, quoi qu'ils disent. Alors je ne me range pas de ce côté-là, ni de l'autre. D'ailleurs, je ne suis pas un admirateur inconditionnel, mais il a quand même rappelé que la République française, elle est organisée selon une constitution. Cette constitution règle les rapports entre le pouvoir politique, la population, les élections, etc. Dans cette constitution, il y a un article qui s'appelle l'article 68 qui parle de la destitution du président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une république, on n'est pas dans une monarchie de droit divin avec le fils qui hérite du père, etc. Donc quand il y a un président qui n'est pas à la hauteur de sa tâche, il y a un mécanisme qui est prévu pour se débarrasser de lui. On ne coupe pas la tête, on ne le met pas au fer, hein, on dit « Monsieur, voilà, vous n'avez pas rempli vos fonctions, vous avez maltraité la France, vous avez fait des erreurs pour la gestion de notre pays, maintenant vous êtes sanctionné. » C'est ça la destitution. Il n'y a pas besoin de pousser des cris d'orfraie, c'est écrit. Alors, en plus, alors on dit « C'est de la folie, etc. » Non, ce n'est pas de la folie. Monsieur Mélenchon, qui a été ministre, qui a été parlementaire, sait très bien qu'aujourd'hui, les conditions de majorité, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui devraient délibérer sur cette question de la destitution, ne peuvent pas permettre de faire voter cette destitution, puisqu'il faut 75% des voix. Bon, il le sait, mais qui dit et qui rappelle à M. Macron et aux gens qui le soutiennent qu'il y a une constitution qui prévoit qu'on peut mettre un terme au mandat d'un président qui fait mal son travail, ça fait partie de la vie de la République française. Donc il n'y a pas à pousser des cris, à faire les pieds au mur, etc. Jean-Luc Mélenchon n'a pas perdu l'esprit. Il connaît les textes, il sait d'où ils viennent, il sait qu'il ne serait pas facile à appliquer dans les circonstances parlementaires actuelles, mais il a raison de dire, Monsieur Macron, rappelez que vous n'êtes pas majoritaire, ni vous, ni votre parti. Quand vous avez fait 22% des voix au premier tour des présidentielles, vous étiez majoritaire de quoi ? C'est la question. Après, vous avez réussi à mettre sur pied un gouvernement qui n'est pas majoritaire. Vous avez gouverné à coup de 49-3, c'est-à-dire sous une forme autoritaire. Vous n'êtes pas très légitime. Bon, donc la destitution, ça peut être une façon de régler votre problème. Et dans des conditions, ça ne sera pas des émeutes, on ne va pas vous passer par les armes, on ne va pas vous guillotiner en place de grève, hein, on va simplement faire fonctionner un mécanisme qui existe dans la loi. Et dans la loi suprême qui est la Constitution. Cet acte de destitution a été introduit dans la Constitution française par un certain Jacques Chirac au moment où il arrivait à la présidence de la République. Alors pourquoi il l'a introduit ? Parce que ça faisait suite à un article qui disait qu'il y avait la même intention, mais qui était dans la Constitution de 1958, qui était « Le président peut être trahi, traduit en haute cour de justice pour haute trahison ». Et c'est le cas qui s'était appliqué, par exemple, à Pétain après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'était la haute trahison, c'est très, très grave. La haute cour, ça veut dire condamnation à perpétuité ou condamnation à mort. Donc, Chirac a introduit une modalité, disons, d'exercice du droit du peuple de critiquer son président et de se débarrasser de son président, un peu plus gérable. En fixant donc des nombres, des motifs, etc. Bon, c'est tout. C'est le seul changement qu'il y a eu. Mais il est normal, je vous dis, on n'est pas dans une monarchie, qu'une constitution d'une république prévoit une modalité, une procédure pour se débarrasser d'un chef de l'État qui n'est pas à la hauteur. Point, c'est tout. Il n'y a pas de quoi hurler. Il a bien fait, je dis, j'insiste, Mélenchon a bien fait de rappeler que ça existe et qu'on est encore en République, même si les actes que je signalais de M. Macron, donc changer la position diplomatique sur le Sahara espagnol, nommer un commissaire européen alors qu'il n'y a pas de gouvernement, il a renommé M. Thierry Breton à son poste, préparer un budget alors qu'il n'y a pas de gouvernement formellement en place pour le préparer, c'est toute une série de bavures. Je suis, le mot est gentil. Donc rappelez qu'au bout, à force de bavure, à force de 49-3, à force d'éborgner des gilets jaunes, il y a des moments où la légitimité est perdue à telle enseigne, d'ailleurs que le groupe parlementaire du parti de M. Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. C'est bien un signe qu'il y a un problème. Bon. Je rappelle à cette occasion, il faut toujours le dire, qu'il y a des pays qui ont réglé le problème différemment. C'est compliqué, la destitution, 75% des voix, les deux assemblées l'une derrière l'autre, etc. Il y a un pays que je vais citer, et puis je vais parler de lui, qui est le Venezuela, qui a prévu dans sa constitution la notion de référendum révocatoire. C'est-à-dire que dans des conditions qui sont fixés, des gens qui demandent. Il y a un vote qui est organisé pour savoir si on est content du président ou pas content du président. Ça ne peut pas se faire dans les 3 mois de son élection. Ça se fait au bout de 2 ans de mandat. Et s'il y a suffisamment de signatures pour demander la convocation de ce référendum révocatoire, le président est soumis à référendum révocatoire. Si le président est battu par un vote populaire, un référendum, il doit quitter son poste. On est bien, bien en avance. Alors le Venezuela, de ce point de vue-là, est bien, bien en avance sur notre système qui est quand même un petit peu compliqué. Je voulais rappeler ça parce que c'est très, très clair. Quand on dit, c'est écrit dans les articles premiers de la Constitution, le peuple est souverain. Le peuple est souverain et comment il exerce le mieux la souveraineté, c'est quand il vote lui-même. Et pas on fait voter les représentants au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un petit rappel, simplement pour dire que M. Mélenchon n'a pas trop fumé pendant les vacances, il est en bonne santé et il sait de quoi il parle. Alors, je laisse à chacun les observations qu'il veut faire là-dessus. C'était bon qu'il soit rappelé qu'il y a des abus de pouvoir permanents de la part de l'équipe à Macron. Et puisque j'ai parlé du Venezuela, j'en dis simplement 2 mots. Donc, il s'est passé, donc, l'élection présidentielle qu'on vous annonçait dans notre dernière émission du mois de juillet a eu lieu. Le président Maduro a été élu avec à peu près 52% des voix. Son concurrent, qui était le concurrent de la droite extrême, j'allais dire, avait 10 points de moins que lui, donc il était autour de 42. Donc l'écart est indiscutable. Et donc Maduro a gagné et son parti a gagné, c'est tout à fait clair. Ça n'empêche que, comme les États-Unis, l'Union européenne, personne ne voulait qu'il gagne, il a commencé à apparaître toute une campagne en disant « élection truquée, pas de présentation des résultats ici et ça, manifestation de rue ici et là bon, », au point qu'on sentait venir un coup d'État en préparation, une révolution de couleur. Bon. Alors c'est en train de se calmer puisqu'il y a eu ce week-end des grandes manifestations appelées par l'opposition, qui est donc une opposition d'extrême droite financée par les États-Unis, la NED et toute une série de groupes politiques et surtout financiers vénézuéliens. Il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes de l'opposition dans les rues, alors que les manifestations de soutien à Maduro, c'est des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Donc le verdict populaire, il est à la fois dans les urnes et dans la rue. Donc je pense que ça va s'arrêter là. Mais il y a une tentative qui a duré pratiquement tout le mois d'août, dès le lendemain, pour essayer de dire que Maduro était illégitime. Et on était en train de voir arriver un phénomène comme celui qui avait été le précédent, c'est-à-dire un faux gouvernement, un faux président reconnu par l'Union européenne, reconnu par Macron, reconnu par Biden, qui aurait été élu par personne. Bon. Ce genre de comédie est insupportable. Et donc, moi, je suis navré que la grande majorité des médias français se livrent à ce genre de comédie et fassent croire que c'est comme ça que ça fonctionne une démocratie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des textes, il y a une constitution, il y a des destitutions, il y a des référendums révocatoires. Autrement, on peut raconter n'importe quoi. Et à la limite, le métier de journaliste est dévalorisé par ceux qui utilisent ce genre de stratagème. C'est-à-dire que vous servez à quoi ? Vous racontez n'importe quoi, vous connaissez aucun texte, vous lisez même pas la constitution de votre pays, vous êtes journaliste en quoi ? C'est des faits divers, les chiens écrasés, c'est ça votre rubrique, vous ne devriez pas sortir de là. Bon. J'en termine avec la France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ailleurs pendant cette période. Je vais commencer par dire un mot sur la situation en Palestine. Alors, un mot, il faudrait en dire beaucoup. En fait, la situation n'a pas évolué dans un sens positif. On a parlé de tentatives de négociations qui n'ont pas débouché, qui auraient lieu par l'intermédiaire des Qataris, mais qui n'ont pas marché. Entre-temps, Israël a continué ses assassinats de leaders. Donc, à nouveau, le Hamas a perdu son leader et ils en ont trouvé un autre. Bon. Donc, de ce point de vue, du point de vue politique, il ne s'est rien passé, si ce n'est, et c'est ça qui est certainement le plus important, d'une part, une réunion à Pékin à laquelle le gouvernement chinois avait invité tous les partis politiques palestiniens en leur disant « Écoutez, c'est bien simple, si vous voulez un État palestinien, il faut que vous présentiez un État unifié, que vous soyez d'accord avec un programme commun de tous les partis palestiniens ». Ne rejouez pas le Hamas contre le Fatah, l'OLP. Vous n'irez nulle part. Et on ne pourra pas vous appuyer, puisque nous, notre position qui est de dire il doit y avoir un État palestinien, c'est ce que l'ONU a prévu. Et pour qu'il y ait un État palestinien, il faut qu'il y ait un gouvernement palestinien. Pas 3 gouvernements, 4 gouvernements. Un seul. Bon. Ça, c'était la leçon de Pékin. L'autre leçon, c'est la réception à Moscou de Mahmoud Abbas, donc le chef de l'autorité palestinienne, par Vladimir Poutine, qui lui a tenu un langage semblable. N'essayez pas, parce qu'on sent que les États-Unis aimeraient bien dire « finalement, on donne les pouvoirs à Mahmoud Abbas, comme ça, c'est nous qui l'avons, puisque lui n'en a plus de pouvoir et qu'il est en très mauvais état physique ». Bon, alors, donc, la Russie et la Chine ont uni leurs efforts pour dire « bon, hein, vous voulez une Palestine, nous aussi, on veut une Palestine unie, il faut un gouvernement uni, il faut que tous les groupes palestiniens se mettent d'accord entre eux ». Là, le message est parfaitement clair et je pense qu'il va circuler dans la population palestinienne. Parce que je pense que l'extrême courage, alors on dit, c'est le mot est très grave, la résilience, la résistance du peuple palestinien, elle est la clé de ce gouvernement d'union nationale. Les gens qui risquent leur vie tous les matins et qui la risquent tous les jours à cause d'une épidémie de poliomyélite qui démarre, à cause de la faim, etc., ils ne font pas ça pour faire plaisir aux leaders du Hamas ou à M. Mahmoud Abbas. Ils font ça parce qu'ils veulent leur pays, ils veulent récupérer leur terre. C'est eux qui tiennent tout ça debout. Le facteur de l'unité, il est dans ce peuple qui accepte des souffrances les plus extrêmes pour dire « je veux mon pays, j'ai droit à mon pays il est à moi ». Ça, c'est tout à fait clair. Et la leçon doit être entendue. Parce que vous ne comprenez pas qu'il y ait des familles, tous les 2 millions d'habitants de Gaza, ou ce qu'il en reste, parce qu'on en est en dessous certainement des 2 millions maintenant, ne sont pas là parce qu'ils ont leur carte au Hamas, si j'allais dire. Et parce que le Hamas... Non, ils veulent un pays qui s'appelle la Palestine. Ils ont le droit pour eux et ils auront ce pays-là parce qu'ils ont le droit pour eux. Voilà ce qu'il fallait dire. Alors, la situation sur le terrain, par ailleurs, est toujours aussi dramatique, si ce n'est qu'il faut ajouter que les États-Unis se sont encore fendus d'annoncer 16 milliards de dollars supplémentaires pour les finances d'Israël. Voilà. Ce qui veut dire des bombes en plus, des chasseurs en plus, et puis on envoie un porte-avions, puis deux porte-avions, et puis des sous-marins. Enfin, en gros, Israël est cerné aujourd'hui par l'armée américaine. Rien de plus, hélas, rien de plus positif, si ce n'est cette énorme résistance populaire de toutes les familles, de toutes les femmes, de tous les enfants qui essayent de confirmer qu'ils veulent leur pays et qu'ils auront leur pays. Ça, c'était bien. Ensuite, ce qui se passe aujourd'hui, j'en dis deux mots. Ça, c'est les deux sujets sont liés. Il se passe, vous savez, elle a commencé hier, la fameuse convention démocrate qui se tient à Chicago, et dont on a déjà donné les résultats, puisqu'on a dit « Madame Kamala Harris va être portée comme candidate du Parti démocrate aux élections bon. ». Alors, à force que les médias le disent, on aurait tendance à finir par le croire. Simplement, j'ai noté qu'hier, devant le lieu où se réunit cette convention, il y avait en gros 100 000 manifestants qui demandaient à ce que le Parti démocrate ait une autre politique vis-à-vis d'Israël et de la Palestine que celle qu'il a. C'est-à-dire moins donner d'argent, moins envoyer d'armes et essayer de trouver une solution politique. Bon, c'était que 100 000 personnes, mais c'était déjà ça. Ils n'ont pas été très très bien traités, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour changer la position de Mme Kamala Harris. Mme Kamala Harris, il faut dire quelques mots quand même sur le personnage, elle a été un des vice-présidents les plus invisibles de l'histoire des États-Unis, ne prenant parti sur rien ou répétant ce que disait Biden. Et puis elle a un passé extrêmement lourd de procureur général de l'État de Californie, où elle était d'un anti-racisme vigoureux, anti-noir, anti-immigré, anti-latino, etc. Alors je trouve ça extraordinaire que nos médias la présentent comme une noire. Alors, mais il y a une espèce de confusion intellectuelle dans les milieux, aux États-Unis en général. À force de vouloir coller des étiquettes raciales sur l'un et l'autre, on finit par dire, alors regardez-la à la télévision, est-ce que Mme Kamala Harris est noire ? Non, non. Ou alors vous avez beaucoup trop bu de bière fraîche parce qu'il fait chaud. Elle n'est pas noire, elle est majoritairement indienne, mais ça n'a pas d'importance. Que ce soit une femme noire, qu'elle n'est pas... Bon, c'est important, c'est est-ce qu'elle est compétente pour occuper ce poste ? Pour l'instant, rien ne dit qu'elle est compétente. Alors, ce ne sera pas la première fois qu'il y aura un président un peu faiblard. On a eu Gerald Ford, on en a eu d'autres, etc. Ça veut dire que la politique se fera autour d'elle et à côté d'elle, mais de là à en faire une espèce d'icône d'une démocratie rénovée et d'États-Unis progressistes, c'est une comédie à laquelle les journalistes français devraient mieux ne pas se livrer. C'est vrai que, comme il se livre à la comédie sur le gouvernement Attal, sur Macron, etc., une comédie de plus, une comédie de moins. Alors ça pèse quand même dans les rédactions des journaux français. Je rappelle que nous ne pouvons rien, nous en tant que citoyens français et auditeurs des médias français, nous ne pouvons rien sur ce qui va se passer dans les urnes le 5 novembre. Nous ne pouvons rien du tout. Alors il ne faudra pas qu'on dise « Ah, je suis déçu, je ne suis pas content, etc. » Non, ce seront les citoyens des États-Unis dans un système extraordinairement compliqué où l'argent joue un rôle décisif. Les appels à voter Kamala Harris, les appels donnés aujourd'hui, 100 dollars, on doit arriver à 1000 dollars. Enfin, chaque groupe fait des appels sur le net. Moi, j'en regarde, c'est assez amusant. Enfin, amusant, oui, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a atteint, on avait dit qu'il fallait 10 000 dollars ce soir dans cette caisse de soutien dans tel État. On est à 9 999. Donnez encore 100 dollars et vous avez jusqu'à minuit. Bon, c'est comme ça que ça marche. Et ça ne va pas beaucoup plus loin, puisqu'après, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau du vote. Bon. J'insiste pas, on en reparlera aussi. Et puis, j'aborde un sujet un peu plus important, qui est le sujet de la Russie. Le sujet de la Russie, puisque vous avez découvert qu'il s'était passé un événement nouveau dans son style et dans sa forme, c'est-à-dire que c'est l'armée ukrainienne qui a décidé de pénétrer militairement sur le territoire de la Fédération de Russie. Alors elle l'a fait dans un endroit qui est au nord du front actuel dans le Donbass. Elle l'a fait à un endroit qui est un peu un ventre mou, en ce sens que c'est une zone assez peu occupée, où il n'y a pas de grosses installations, pas que des petits villages, etc. Elle a réussi à pénétrer sur quelques dizaines de kilomètres. Cette opération était certainement préparée de longue date, puisque l'armée ukrainienne avait réussi à mettre sur pied une force de 10 000 hommes. 10 000 hommes, c'était beaucoup, parce qu'on sait que l'armée ukrainienne cherche des soldats partout, par tous les moyens. Donc, réunir 10 000 hommes formés en préalable, en Grande-Bretagne, je précise, formés à tous les instruments de la guerre contemporaine, les drones, tous les systèmes de télécommunication, etc. Ça veut dire que c'est une opération préparée de longue date et à des très hauts niveaux, avec le patronage de l'OTAN derrière et tous les moyens techniques. C'est ce qui a probablement expliqué peut-être un effet de surprise qui a duré 2-3 jours, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avancer sur le territoire russe. Et puis maintenant, la Russie a mis en place des forces pour résister. Et elle a mis en place des forces qui, en aucune façon, n'ont mis en cause la capacité de l'armée russe à continuer la guerre dans le Donbass. Et c'est là que c'est très intéressant à suivre, c'est-à-dire que pendant le temps où l'Ukraine et Kiev et Zelensky faisaient cocorico, on est rentré chez les Russes, le vrai front du Donbass avançait à la faveur des Russes. C'est-à-dire que les Russes sont en train de grignoter petit à petit tout le territoire qu'ils ambitionnent de contrôler. Grignoter petit à petit, j'explique aussi. On a affaire, et j'en reparlerai tout à l'heure à propos de ce qui s'est passé au Mali, on n'a pas affaire à une guerre comme on nous l'a montré au cinéma ou comme on l'a montré dans les livres d'histoire. On a affaire à une guerre où effectivement les drones, la communication, la surveillance et tout, ont un rôle important et même décisif. Soit qu'ils observent, c'est le cas, soit qu'ils bombardent eux-mêmes, c'est le cas des drones suicides. Et donc en pratique, il faut s'enlever de l'idée, de la tête, le fait qu'il y a deux armées face à face qui se regardent comme le matin d'Austerlitz en 1804, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce système de surveillance permanent, et tout est interconnecté, fait que aucune des deux armées, que ce soit l'armée russe qui est bien enfoncée dans ses souterrains, que ce soit l'armée ukrainienne elle-même qui veut avancer dans le Donbass, ils sont dans des petites unités cachées dans des trous. C'est ça la guerre, c'est la guerre d'un trou à un autre. Et donc, ce n'est pas une guerre avec 10 milliers de personnes qui bougent. Et ce qui s'est passé donc, dans l'opération de cours, c'est que tout d'un coup, l'armée ukrainienne est sortie de ses trous, avec ses 10 000 hommes formés, avec la surveillance de l'OTAN et tout. Et ils se sont mis, en fait, c'est ça qui va être la suite de l'opération, ils se sont mis, en fait, à découvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée russe est en position de savoir exactement où ils sont, combien de chars d'assaut ils sont, et ils sont à découvert parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire des trous. Les trous qui sont dans le Donbass, ça fait depuis 2014, ils font des trous, les Ukrainiens. Ils ont fait une ligne de front. Et cette ligne de front est en train de craquer. C'est-à-dire que derrière la ligne de front qu'ont mis en place les Ukrainiens pour éviter que les Russes avancent dans le Donbass, il n'y a plus rien. L'armée ukrainienne n'a plus d'appui. Elle sera à découvert. C'est-à-dire que le gain immédiat dans les quelques jours là, dans la zone de course, va se payer extrêmement cher sur le front réel, qui est le front du Donbass. C'est-à-dire que le verrou ukrainien va sauter assez rapidement. Manque de soldats, manque de matériel. Et le meilleur matériel dont ils disposaient, qui venait d'être livré, des chars américains, des chars allemands et tout, est pratiquement mort sur le terrain dans l'opération de Koursk. Voilà ce qu'il faut bien intégrer comme évolution de la situation. Ce qui veut dire que la Russie a maîtrisé le phénomène, même si, alors, il y a des débats pour ça, s'il y a eu effet de surprise ou il n'y a pas eu effet de surprise. Il y a les deux options, y compris dans l'état-major russe, puisque les gens s'expriment ici et là sur différents médias. Certains disent « on a été surpris » et d'autres disent « non, non, c'était comme ça qu'il fallait que l'armée ukrainienne sorte de ses trous. Et maintenant qu'elle est sortie de ses trous, on la hache en menus morceaux. » Ce qui est en train de se passer. Alors, au passage, bien entendu, il y a eu toutes les opérations horribles, les récits de la vieille dame qui a été violée par les soldats ukrainiens plusieurs fois, un jour, le lendemain, etc. Tout ça, on le sait. On a quand même si la photo d'un mercenaire français qui est entre les mains de l'armée russe, dont on connaît le nom, l'identité et tout. Donc, on sait qu'il y avait dans le nombre des mercenaires français pour constituer cette unité d'élite dans l'armée ukrainienne. Dernière chose, et il faut le citer quand même, il y a aujourd'hui dans l'ouest de l'Ukraine, qui est donc la partie plus pro-Zelensky, pro-nazi, on aurait dit à l'époque, de la population ukrainienne, il y a eu des émeutes parce que là, l'armée était venue recruter de force des gens pour les mettre dans l'armée alors qu'ils ne voulaient pas y aller, des gens de n'importe quel âge, de n'importe quelle condition. Et il y a eu des émeutes, c'est-à-dire que dans les zones les plus à droite de l'Ukraine, les plus anti-russes théoriquement de l'Ukraine, il y a des gens qui se sont opposés à l'armée ukrainienne, disant « libérez les gens qui ne veulent pas aller se battre et mourir pour vous ». Ça, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'il y a des craquements dans l'opinion ukrainienne. Bon. Tout ça fait partie de la donnée, mais je voulais resituer les opérations sur le terrain pour bien faire comprendre de quel type de guerre on assiste, et c'est un type de guerre que les commentateurs officiels qu'on peut voir sur les plateaux de télévision n'expliquent jamais ça. C'est-à-dire, ils nous parlent de ça comme ou de la guerre d'Algérie ou d'un autre conflit. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc, on est dans des trous, on n'est pas nombreux. De temps en temps, on sort, mais on court beaucoup de risques parce que dans la minute, il y a un drone qui vous a photographié, qui vous a localisé, on peut vous tirer dessus dans le quart d'heure, etc. C'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas faire plus d'expertise militaire, mais c'est bien qu'on comprenne. Alors, les annonces médiatiques sont totalement disproportionnées et inadaptées à la description du conflit tel qu'il se passe. On dit « grande victoire ukrainienne » ou « recul des Russes » et tout, ça n'a pas de signification. Et puisque j'en suis arrivé à parler des opérations militaires, je fais un saut dans la zone nord du Mali. Dans la zone nord du Mali, il s'est opéré une opération qui était une énorme embuscade dans un petit village dont le nom, je ne l'ai pas noté, ça n'a pas d'importance, à proximité de la frontière algérienne, donc vous situez à peu près ça sur la carte, où intervenait l'équipe alors qu'on appelait de Wagner. Alors Wagner, je rappelle, cette milice russe qui a été dissoute officiellement par le gouvernement russe après la tentative de coup d'État par Prigogine, et qui, après le décès de Prigogine dans l'accident de son avion, ça a été constitué au sein de l'armée russe avec des officiers supérieurs et des officiers généraux russes qui ont repris en main ces soldats mercenaires. Donc on a affaire à ce qui s'appelle plus Wagner. Alors là aussi, la presse occidentale dit Wagner. Ben, Wagner, c'est fini. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de Wagner. Il y a un commandement spécial de l'armée russe qui s'appelle l'Afrika Korps. Alors ça sonne un peu bizarre à l'oreille, puisqu'en fait, c'était comme ça que Rommel avait appelé ses divisions nazies sur le territoire africain. Bon, mais on a donc une unité de l'armée russe qui comme soldats les anciens mercenaires de Wagner, mais qui est dirigé par des militaires russes. Cette milice, donc ce corps de l'armée russe, intervenait dans la zone nord du Mali à la suite des accords qu'ils ont passés avec le gouvernement malien. Et il s'agissait de faire face à une opération un peu particulière. C'était une alliance, pas tout à fait contre nature, mais un peu inattendue, entre les milices Touareg, qu'on appelle l'Azawad, et les milices islamistes que je mets sous le groupe ACMI en général, qui se sont alliés en l'occurrence. Alors cette alliance mérite d'être connue et d'être comprise. L'Azawad, les Touaregs, revendiquent le territoire du Sahel et du Sahara comme étant leur pays. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être ni en Algérie, ni au Mali, ils veulent être nulle part. Ils disent « le désert est à nous, on est chez nous dans le désert ». Et donc c'est ça la racine idéologique de l'Azawad. Bon. Que les islamistes leur aient donné la main, c'était effectivement pour leur donner des moyens matériels, de leur donner des moyens financiers peut-être aussi, une aide technique pour les aider à avancer dans leur attaque contre l'armée du Mali et donc contre la milice russe, contre l'Afrika Korps. Alors effectivement, ils ont très bien travaillé ensemble, les islamistes et les Touaregs, au point que le corps russe a été tombé dans une énorme embuscade où il a subi de très très grosses pertes en hommes et en matériel. Et manifestement, et je reviens à cette question de présentation des modes de guerre contemporains, l'Afrika Korps s'attendait à une embuscade classique comme les Touaregs en ont déjà mené, parce que l'Azawad, ça date pas d'hier, etc. Donc une embuscade classique dans le désert avec des petits moyens techniques. Ils se sont trouvés face à une opération montée avec les services secrets occidentaux, avec des drones, avec des communications qui passaient entre les uns et les autres, donc avec une opération de guerre de pointe. Donc, ils ont énormément souffert de l'opération. Il y avait plusieurs centaines de combattants, donc de combattants russes ex-Wagner qui sont morts. Leur matériel a pratiquement tout été détruit. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, mauvaise appréciation, c'est-à-dire qu'il est arrivé, pendant que je vous parlais du Donbass et de Koursk, etc., il est arrivé en plein milieu du Sahara, une opération de guerre de style contemporain, tout à fait en pointe dans ses techniques de combat que l'armée russe n'avait pas vu venir. C'est tout à fait clair. D'où les souffrances. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé depuis que l'armée malienne, qui avait observé ça puisqu'elle était derrière les troupes russes, l'armée malienne est intervenue et elle a commencé à, effectivement en se mettant à niveau, c'est-à-dire en disant ben voilà à qui on a affaire maintenant, voilà le niveau d'équipement, voilà le niveau technologique des milices Touareg et des militants djihadistes, donc on va s'en occuper. Ils s'en sont occupés tellement qu'ils en ont pris beaucoup. Et je vais vous faire écouter une petite bande son qui a circulé sur Facebook, donc vous en avez probablement la primeur, qui explique ce qu'ont trouvé les soldats maliens et les officiers maliens qui sont allés faire le ménage après l'opération embuscade. On écoute.
L'information actuellement, ce qui se passe à Tenza. D'abord, vous devez savoir que le nombre de mercenaires qui étaient mobilisés pour venir attaquer le Mali, sinon l'AS précisément à Tenza, ils étaient au nombre de 4000 mercenaires. Les 4000 mercenaires, ceux qui ont été neutralisés, 279 Français, 37 Américains, Latino-Américains, dans la journée, ils étaient à 179. Maintenant, les 28 quand ils ont essayé de sortir des grottes là matin, là, vous avez eu l'information qu'on a neutralisé 27. Les 27 là, 26 sont latino-américains, c'est un seul qui est italien dedans. Donc, ajoutez ça, c'est les 179 des latino-américains. Maintenant, italien, espagnol, portugais, britannique, tout réuni, ça fait 214. Ukraine, bon, soi-disant Ukraine, 337 mercenaires. Algérie, 719 soldats algériens neutralisés. Libye, 527 neutralisés. Mauritanie, 277 neutralisés. Côte d'Ivoire, 742 neutralisés. Ghana, 198 neutralisés. Nigeria, je précise, c'est pas Niger, c'est Nigeria, 557. Pendant que votre pays a fait à 100, vous venez dans le nord du Mali pour combattre le Mali. Regardez à quel point les Africains sont ignorants. Ça, c'est ce qui concerne, ça, c'est ceux qui ont été neutralisés. Maintenant, vous avez tous eu l'information hier, sauf seulement on va donner précision. Sinon, je sais que vous tous, vous avez cette information en main. Les terroristes demandent une négociation. Ils ont contacté un président dont un pays est proche de Tenza, vous comprenez de quel pays je parle déjà. Ils ont contacté nos autorités ont été catégoriques, pas de négociations. C'est pourquoi matin là, ils ont voulu forcer. Quand on a neutralisé 27, ils sont retournés dans le crotte encore. Mais il n'y a pas une autre sortie. La seule sortie là, c'est vers le Mali. Toutes les autres sorties ont été bombardées et bouchées. Il n'y a pas moyen de sortir. Donc, ils veulent pas, ils vont sortir par là. Donc, ce président de ce pays voisin qui est collé au Mali, qui n'est pas loin de Tenza, et a contacté nos autorités qu'il nous informe déjà qu'il y a 2000 mercenaires qui sont dans ces grottes. Mais on n'avait pas besoin de leur information. On savait il y a combien qui est dedans. Mais croyez-moi, tous les grands terroristes dont vous avez entendu le nom depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, néanmoins ceux qui sont vivants sont tous dans cette grotte. Il n'y a pas un qui est ailleurs. C'est ça qui est le problème dedans. Dont un qui travaille pour le service de renseignement algérien, dont ils ont toujours nié qu'il n'est pas leur élément. Il est dans cette grotte. Voilà pourquoi le président de ce pays a contacté nos autorités. Nos autorités ont été catégoriques. On ne négocie pas avec les terroristes. Soit ils se rendent, soit on va les abattre, c'est tout. Maintenant, vu que Assim ne répondait plus à les appels, après ils ont contacté Tiani, comme Tiani c'est un vieux, ils ont contacté Tiani. Tiani, voilà la réponse de Tiani. Mon cher président, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais même pas pourquoi il a mis cher président, ou c'est le journaliste qui a écrit comme ça, je vous demande tout simplement de m'apporter un seul document où ton pays a une fois négocié avec les terroristes. Alors là, j'appellerai mon petit frère de négocier avec vous. Si vous n'êtes pas capable de me fournir un tel document, ne m'appelez plus pour cette négociation. Ça, c'est la réponse de Tiani. Ça dit, si ce président peut donner preuve où ils ont une fois négocié avec les terroristes, il n'y a pas de problème.
Voilà, vous avez entendu donc l'ampleur du phénomène. Donc tout ça est parti de grottes qui sont connues donc dans le nord du Mali. J'explique un peu le président dont il s'agit, c'est le président Tebboune, le président algérien. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Algérie essaye de protéger sa frontière sud qui est immense, donc au Mali en particulier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle sait que les Touaregs sont des irrédentistes qui voudront jamais se courber devant un État national, elle est obligée d'infiltrer le mouvement Touareg pour éviter qu'il fasse trop de bêtises. Mais là, ce qui s'est passé, c'est donc la conjonction entre les islamistes de l'ACMI et le mouvement Touareg. Et là, les Algériens ont été pris dans le piège, c'est-à-dire ils ont toujours eu, et ça on le comprend, qu'ils aient des infiltrés chez les Touaregs pour voir venir les mauvais coups. Là, ils s'étaient embarqués dans une affaire qui les dépassait complètement, avec l'Ukraine, l'OTAN, d'énormes moyens en finance et en technique de guerre qui étaient mis en œuvre. Bon. Donc je pense qu'au niveau du gouvernement algérien, ça aura porté aussi, et je salue la réponse très très ferme des camarades du Mali, le président Tiani et le lieutenant-colonel là, qui fait cette bande de son. Donc tu as le nom là, peu importe. Le
colonel Maïga?
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et peut-être préciser que Tiani, c'est le président du Niger.
Du Niger, ouais. Tu as raison, oui. Parce qu'en fait, ils disent bien et ils insistent sur le fait que c'est une opération conjointe de l'AES, des deux pays, qui sont tout à fait d'accord et que leurs forces travaillent ensemble. Et que donc, quand il y en a un qui est attaqué, c'est l'autre aussi qui l'est. Et donc, ils ont des accords de défense commune. Oui. C'est ça que ça permet d'illustrer les trois pays, y compris le Burkina Faso. Donc là, très, très joli, enfin, horreur pour l'opération de l'armée russe, contre l'armée russe, mais très beau retour sur le terrain des forces indépendantistes qui mettent le nez dans l'Algérie, dans ses contradictions, c'est-à-dire, si vous soutenez les islamistes, vous vous tirez vous-même une balle dans le pied. Alors calmez-vous, essayons de trouver, tout le monde y aura intérêt, tout autour des Libyens, des Tchadiens, de la Mauritanie, l'ensemble du Sahel a intérêt à trouver un statut particulier pour les Touaregs. C'est pas d'hier, ça fait des décennies que ça dure. Ils ne veulent pas d'un État, ils veulent vivre avec leur chameau dans leur grotte. Bon, mais trouvons un modus vivendi. Mais ne les en faisons pas travailler avec des terroristes islamistes. Ça, ils n'ont rien. D'ailleurs, en fait, c'était très surprenant parce que d'habitude, ils ne s'entendaient pas. Cette conjonction de l'islamisme radical et des Touaregs, c'était une première. Et c'est ça, je pense, qui a surpris au départ le bataillon russe.
Mais on est bien d'accord, c'est l'Occident qui ne lâche rien et qui voilà, veut continuer
tout,
de...
Voilà, tout à fait, oui, okay. Oui, c'était bien ça. Oui, c'était continuer la guerre et même poser des problèmes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, à l'AES en général, pour montrer qu'ils n'étaient pas maîtres de la situation. Et effectivement, on a monté, à cette occasion, je redis, on a monté la guerre dans le Sahel à un niveau technique où elle n'était jamais arrivée. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un espèce de coordinateur de la guerre mondiale contre la Russie, la Chine, etc. Et elle peut intervenir un peu n'importe où. On sait qu'ils étaient intervenus petitement, et je pense qu'ils sont encore au Soudan, dans la crise qu'il y a au Soudan. Ils sont capables d'intervenir dans beaucoup d'autres endroits, puisque c'est la fonction du gouvernement ukrainien, des services secrets ukrainiens, d'être en fait aujourd'hui un agent. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'Ukraine a remplacé comme outil de politique étrangère des États-Unis ce qu'étaient les djihadistes dans les années de l'Afghanistan. C'est ça la nouvelle fonction. Et ils le font d'autant mieux, je mets ça entre guillemets, qu'ils ont la formation de terrain dans le conflit en Ukraine. Et qui, eux, sont effectivement, qu'il y a aujourd'hui dans l'armée ukrainienne, des gens qui sont ukrainiens plus ou moins, mais il y a dans l'armée ukrainienne des gens qui sont au meilleur niveau technique de la guerre contemporaine. Et donc, ils sont chargés d'exporter la guerre contemporaine dans tous les lieux où l'Occident se sent faible. C'est le cas au Sahel.
À l'issue de l'embuscade, les relations diplomatiques ont été rompues avec l'Ukraine depuis l'AES, le Niger, le Mali.
Donc on voit bien que ce n'est pas que les Ukrainiens, mais le rôle des Ukrainiens est central, il est stratégique. Après, ils recrutent cette espèce de lit de la terre qu'on arrive à trouver partout, à Koursk. Hein. Je ne veux pas citer de pays, on trouve des Colombiens, on trouve des Libanais, on trouve des Français, des enfants perdus de la civilisation, j'allais dire, qui sont là, qui gagnent pas mal, hein, mais qui risquent leur peau pour pas grand-chose, et surtout pour des objectifs politiques qui les dépassent totalement. Bon. C'est comme ça. C'est comme ça, et ça m'amène à vous parler du sujet qui est le plus nouveau, parce qu'il a été, et il n'est toujours pas couvert dans les médias occidentaux, et en particulier dans les médias français, qui est ce qui s'est passé au Bangladesh. Alors, au Bangladesh, j'en reparlerai sûrement, parce que ce n'est pas tout à fait fini, c'est même sûrement pas fini, ça ne fait que commencer, a une histoire très particulière. Le colonisateur britannique, avant de partir, sous l'influence de Lord Curzon et de quelques autres, dit « Bon, je vais donner l'indépendance à l'Inde parce qu'il faut que je fasse un geste et puis c'est lourd à porter, ils sont nombreux, c'est grand, c'est loin, etc. Bon, » mais il ne faut pas qu'il se constitue là, dans cette zone de l'Asie, un pays trop fort. Donc je vais chercher, ça c'est typiquement le raisonnement britannique et le raisonnement de décolonisateur-colonisateur, c'est-à-dire je vais chercher un facteur de division dans cette région-là du monde. Et le facteur de division, il existait, mais ils l'ont fait fructifier à leur profit, c'est-à-dire ils ont dit, on s'aperçoit qu'il y a dans cette zone-là, donc depuis l'Indus jusqu'au Gange et au Brahmapoutre de l'autre côté, à ces deux extrémités de ce qui est l'Inde aujourd'hui, des hindous en majorité et des musulmans en minorité, et qui s'entendent pas très bien. Mais pas plus que ça. Mais dès l'instant où on dit « ils s'entendent pas très bien » et on va leur dire « écoutez, vous entendez pas très bien, eh bien, vous allez dans un pays et vous allez dans l'autre et comme ça, il n'y aura plus de mélange et le calme reviendra. Bon. » Alors ça a été l'horreur, puisqu'en fait, ils ont fabriqué un pays qui ne tenait pas debout, qui s'appelait le Pakistan. Le Pakistan, donc avec un Pakistan occidental, capitale Karachi à l'époque, Islamabad après, et le Pakistan oriental, capitale, Dhaka. Bon, c'était ça. Et il s'était dit, les Britanniques, comme ça, ils sont bien, les musulmans sont... Alors il en était resté quand même un peu en Inde, un peu beaucoup quand même. Enfin, le gros était... Alors il y a eu des mouvements de population considérables, des hindous qui sont repartis en Inde, qui habitaient au Pakistan, des musulmans qui sont partis soit au Pakistan oriental, soit au Pakistan occidental. Et puis, ça s'est stabilisé comme ça. Ça s'est stabilisé comme ça, et le gouvernement britannique, le colonisateur, aurait pu dire, finalement, j'ai bien joué mon coup. Ça a été un peu compliqué, il y a eu des dizaines de millions de personnes qui sont parties avec leurs valises, mais enfin, bon, il n'y a pas eu trop de casse. Mais en fait, il est apparu que ces deux Pakistans, n'avaient pas grand-chose de commun, à part la religion. Et on sait que, alors, il faut avoir une vision d'extrême droite française pour croire que l'islam, c'est un. L'islam, c'est pas un du tout. Il y a les chiites et les sunnites, on le sait. Il y a les ismaéliens. Il y a quantité de courants de l'islam. Et donc, c'est pas parce que deux morceaux d'un pays sont musulmans avec la même intensité, en gros 90% de la population, que pour autant, ils ont même la même pratique de l'islam et le même rapport à l'islam. Alors ça a commencé à se sentir, mais ce n'était pas grave. La grosse erreur, c'est que ces deux morceaux du Pakistan ne parlaient pas la même langue. Alors mettez un pays où il y a une partie de la population qui parle une langue, majoritairement l'ourdou, donc qui est la langue officielle au Pakistan occidental, et de l'autre côté, on parle le bengali. Le bengali, qui est la langue du Bengale, Bengale qui a été d'ailleurs en opération divisé, puisqu'il est resté un morceau du Bengale. Il y a un état de l'Inde aujourd'hui qui s'appelle le Bengale occidental, et puis le reste des Bengalis se sont retrouvés dans ce qui allait devenir le Bangladesh. Mais en fait, donc voilà, cette coupure, à la fois dans les pratiques, dans le type d'économie, c'est-à-dire l'économie du Pakistan oriental, c'est une économie agricole sur une terre extrêmement fertile, extraordinairement bien arrosée, alors que le Pakistan occidental, c'est plutôt la terre de la sécheresse et des endroits difficiles à cultiver. Bon. Donc, rien de commun. Hein. Alors, cette espèce d'unification, ils sont tous musulmans, ils vont s'entendre, ça n'a pas tenu. Alors, ça a mis un certain temps à bouger, et puis ça a craqué, parce qu'il s'est créé, donc, au Pakistan oriental, un mouvement indépendantiste en disant, mais non, on n'a rien. D'abord, on est à 1800 km les uns des autres, c'est compliqué de gérer. On s'aperçoit que dans les prises de décision, le gouvernement du Pakistan unifié, il est à Karachi, il n'est pas à Dhaka, donc c'est eux là-bas qui gouvernent. Hein. On ne parle pas la même langue, on ne s'entend pas, on a des économies complètement différentes, on veut notre indépendance. Alors le mouvement d'indépendance a été lancé, et il a été lancé non pas sur la mode d'une guerre de libération nationale, mais sur une revendication populaire d'indépendance. Alors ça a démarré comme ça, et il y a un personnage qui est sorti du lot à ce moment-là, qui a pris la tête de cette espèce de croisade, qui n'était pas donc une lutte armée, qui était le père, M. Mujibur Rahman, qui était le père de la première ministre qui vient d'être expulsée. Bon. Et donc il a acquis une stature relative, puisqu'il est arrivé, d'abord il a été un peu l'idéologue de l'indépendance du pays, et ce pays s'est appelé Bangladesh, donc Bengale. En Bengali, hein, et plus Pakistan. Alors ça s'est fait quand même dans la douleur, parce que le Pakistan occidental n'a pas accepté cette séparation. Et donc, comme il voyait que le mouvement indépendantiste du Pakistan oriental était un mouvement non armé et pas très violent, enfin, il y avait des manifestations de rue et tout, mais ce n'était pas une lutte armée, l'armée du Pakistan occidental est venue sur place pour faire régner l'ordre, pour rétablir l'ordre constitutionnel pakistanais. Et là, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que c'était une armée contre des civils, en gros. Des civils un peu organisés, mais en tant que militants de rue, guérilleros pour certains cas, mais pas plus que ça. Et ce moment, ça a duré donc en gros du mois de mars 1971 à la fin de l'année 1971, au terme de laquelle, effectivement, le Pakistan oriental est devenu le Bangladesh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé militairement ? Effectivement, les militants indépendantistes n'étaient pas en capacité de résister à l'armée pakistanaise qui était forte et qui l'est restée. Et donc, en fait, c'est l'Inde, toute hindoue qu'elle fut, qui s'est aperçue qu'il fallait qu'elle intervienne. Elle a sauvé militairement, parce qu'elle a dit maintenant, il faut arrêter la casse, le massacre, elle a sauvé militairement le Bangladesh. Et il en est resté des relations un peu particulières, c'est-à-dire qu'on a un Pakistan occidental qui a des relations, on le sait, très compliquées avec l'Inde depuis les périodes, et au contraire, un Bangladesh qui avait tendance à avoir des relations un peu pacifiées. On était musulmans d'un côté et hindouistes de l'autre, mais on arrivait quand même à avoir des échanges, d'autant plus qu'il faut voir sur la carte, le Bangladesh est une espèce d'abcès au milieu de la partie est de l'Inde, et qu'en fait, si on ne traverse pas le Bangladesh, c'est très compliqué d'aller à l'autre bout de l'Inde, qui est au-delà, à l'est du Bangladesh. Et donc, les relations étaient plutôt normalisées avec, sur cette base, bon, on est musulmans d'un côté, hindouistes de l'autre, mais il y avait, et il y a encore, des minorités hindoues, des minorités sikhs au Bangladesh, comme il y en a dans d'autres régions, dans d'autres états de la Fédération. C'est ça l'histoire. Et après, il a fallu que ce pays se prenne en charge, ce pays agricole, avec sa langue, ses traditions agricoles, et qui se développe. Alors, il s'est développé puisque aujourd'hui il y a 170 millions de Bengalais, de Bangladais, et que le jour de l'indépendance, ils étaient 68 millions. Il y a 100 millions d'habitants en plus. Alors, on va vous faire verser une larme en disant ils ne mangent pas tous les jours à leur faim. Évidemment, ils ne mangent pas tous, évidemment. Non, bien que la production agricole soit forte, qu'ils soient assez proches de l'autosuffisance alimentaire parce qu'ils ont des terres extrêmement riches et bien arrosées, mais effectivement, ce n'est pas facile. Ce que je note, et à l'appui des deux chiffres que je viens de vous donner, 68 millions d'habitants en 1971, 170 millions aujourd'hui, c'est que les gouvernements qui ont été à la tête du Bangladesh, tout bourgeois qu'ils fussent, car il n'a pas été question de socialisme bangladais, hein, c'était deux gouvernements bourgeois, enfin deux groupes bourgeois qui se sont partagés le pouvoir de 71 à aujourd'hui. Mais ils ont quand même réussi, ils ont mis en place un système de contrôle des naissances qui a permis de faire passer la fécondité de 6 à 2, c'est-à-dire... Quand la fécondité arrive à 2, on est à un taux d'augmentation de la population très gérable, 1%, pas plus, alors qu'on était dans des taux épouvantables depuis extraordinairement sous-développés. Bon, ça on ne le mesure pas, mais il faut le mesurer comme un acquis de ces deux groupes bourgeois qui se sont partagés le pouvoir. Alors je dis deux groupes bourgeois parce qu'effectivement ils ont été en concurrence. L'un a été plus souvent au pouvoir que l'autre. C'est le gouvernement de la première ministre qui vient d'être mise à la porte. Et il va être remplacé, ça se confirme aujourd'hui encore. Il y a eu des articles dans la presse bangladaise disant que c'est effectivement l'autre parti qui va prendre le pouvoir. Mais on voyait venir ça. C'était évident que les émeutes populaires, le soulèvement des jeunes, etc., c'était... Le décorum classique, on connaît, révolution de couleur et tout ce que... En fait, c'était simplement un changement de groupe bourgeois dirigeant. Alors, un changement en défaveur de celui qui a plutôt de bonnes relations avec l'Inde et qui avait noué maintenant des bonnes relations avec le voisin chinois, qui est juste à côté et qui pèse son poids, en faveur d'un autre groupement qui est plus conservateur et plus proche des intérêts des États-Unis. C'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est à peu près clair. On vient d'annoncer le nom du nouveau Premier ministre, il n'est pas encore choisi. Et puis on a mis à la tête de l'opération de... Oh, comment appeler ça ? Recoller tous les morceaux. C'est-à-dire, il y a eu, alors depuis 15 jours, en gros, depuis le départ de la Première ministre, il y a quand même eu des petites émeutes ici et là. On s'en est pris à des hindous, il y a eu différents mouvements. Bon, la température qui était montée dans la tête des jeunes militants s'est exprimée de cette façon. Mais je signale simplement que dans le gouvernement intérimaire, les leaders du mouvement étudiant ont deux postes de secrétaire d'État et donc ils auront un rôle extrêmement faible. Et donc c'est effectivement l'autre parti, qui s'appelle le Parti nationaliste du Bangladesh, qui va arriver au pouvoir.
Oui, excuse-moi.
Vas-y.
Juste dire que, en fait, contrairement à ce que nos médias occidentaux disent, la première ministre n'a pas démissionné.
Elle a été obligée de fuir.
Voilà. Elle n'a pas démissionné. Non. On la présente comme une ministre démissionnaire.
Elle a démissionné de fuir. Non, elle a fui parce qu'elle savait, instruite par l'histoire, il fallait le rappeler, que son père, donc, qui a été au pouvoir Premier ministre pendant 3 ans et qui a fini assassiné, il a fini assassiné par les gens de l'autre parti. Alors, le Parti national bangladais, le BNP, qui va arriver au pouvoir maintenant, il est allié aussi à un groupe islamiste, donc qui est plus violent. Donc ça donne un autre équilibre à l'intérieur, alors que Madame Hassina, elle a fait attention de ne pas être entre les mains des islamistes, elle a pris ses distances. Bon. Et donc, elle, quand elle a vu ce qui allait se passer, elle a eu un souvenir très fort qui lui est revenu à la mémoire, parce qu'en 1975, alors que son père était Premier ministre, il a été assassiné, mais il n'a pas été assassiné parce qu'il faisait un discours dans la rue. Il y a des gens qui sont venus dans sa maison, qui était le palais du Premier ministre, qui ont tué tous les gens qui étaient là. Femmes, enfants, cousins, cousines, etc. Et Madame Hassina a survécu parce qu'elle était en Allemagne ce jour-là. Autrement, elle serait morte. Bon, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Et donc, effectivement, elle a dit, elle a vu la façon dont les événements évoluaient et elle a sauté très, très, in extremis dans un avion et elle est partie de l'autre côté de la frontière. Alors, elle est partie pas très loin, dans le Bengale indien, et puis après, elle s'est déplacée plus à l'ouest pour être un peu plus à distance, pour éviter peut-être un attentat. Alors, le gouvernement nouveau va probablement demander son extradition. Ça. On verra. Mais en tout cas, elle est vivante et elle a des appuis politiques, elle a une connaissance des sujets tout à fait importante, et elle avait des amis des deux côtés, elle avait des amis en Inde et elle avait des amis en Chine. Ça, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça cache? Alors, elle a dit deux petites choses depuis qu'elle est réfugiée, puisque c'est ça son statut. Elle a dit qu'elle avait été, le coup d'État avait été orchestré par les États-Unis, ce qui ne fait pas de doute, hein, c'est les techniques qu'on connaît de révolution de couleur, il n'y a pas de souci, en s'appuyant sur des étudiants radicalisés. Et puis, elle a dit, j'avais refusé aux États-Unis qu'ils installent une base militaire permanente sur une île qui appartient au Bangladesh, alors qui est très au sud, qui enfin au niveau quasiment du Myanmar, très, beaucoup plus bas, mais ce refus, je pense qu'elle n'a pas tort, a été interprété comme lèse-majesté à Washington, et donc on a dit que cette personne-là, qui était arrivée, c'était, alors elle était en train de commencer son quatrième mandat, elle était un peu fragilisée, et donc on a dit c'est le moment, et puis ça fera de la peine aux Chinois, qui avaient d'excellentes relations avec elle, et qui en particulier avait équipé l'armée bangladaise avec du matériel nouveau qu'elle va conserver, puisque en fait, ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est évident, c'est que les généraux sont une espèce de garantie de passation tranquille du pouvoir du parti de Madame Hassina au parti au BNP bangladais, mais en fait, c'est l'armée qui surveille les opérations. Donc, il y a là toute une série d'opportunités politiques qui vont se dérouler sous nos yeux. Mais retenons ça, le coup d'État a été organisé sur les bases classiques des révolutions de couleur. Il n'a pas produit les effets escomptés, puisqu'en fait, on a passage d'un clan qui dirigeait, d'un groupe, disons, bourgeois qui dirigeait le Bangladesh, à un autre qui l'a dirigé un certain temps, moins depuis 1971 que le premier, mais qui est en train de s'installer au pouvoir. Un dernier mot pour savoir quel est le maître-queue de cette cuisine politique, parce qu'il y en a un. Il s'appelle M. Younous, Mohamed Younous. Alors, c'est un économiste qui a eu. Alors, c'est un économiste qui, pour être récompensé de ses travaux d'économiste, où il a promu le microcrédit, c'est-à-dire. Oui, fabriquer des petites entreprises pour les petits, fabriquer des petits patrons, en gros, avec un calcul social, politique très très clair, qui est de dire, il ne faut pas que ces masses de gens qui n'ont pas de boulot, qui ont des petits, qui sont précaires, etc., soient livrés à eux-mêmes et surtout pas à l'influence socialiste ou communiste, etc. Donc, je mets en place des microcrédits, ils deviennent tous, on dirait aujourd'hui, c'est notre langage ici en France, des auto-entrepreneurs. Et bien entendu, qui leur donne des commandes? C'est les gros membres de la classe bourgeoise qui sont propriétaires de l'industrie textile bangladaise, évidemment. Ça, c'est l'apport de M. Younous. Et c'est tellement politiquement limpide, cet apport, qu'il a été récompensé pour cette idée donc, de microcrédit. Par quoi? Devinez la récompense. Il a eu le prix Nobel de la paix. C'est pas beau, ça? Alors, quand vous voyez un monsieur qui a le prix Nobel de la paix, oui, ah, lui, il fait partie de nos amis. Et il fait tellement partie de nos amis, j'insiste là-dessus, qu'il a été reçu en grande pompe autant de fois que nécessaire par M. Nicolas Sarkozy, qui le considérait comme un antisocialiste acharné. Et il est arrivé, alors il n'était pas là le jour du départ de Mme Hassina, il vient d'arriver à Dakar, hier ou avant-hier, et il arrivait de Paris. Il arrivait de Paris, où il doit être confortable, bien au chaud, avec ses amis, donc Sarkozy, Hollande, j'en passe, et des meilleurs. Donc tout ça est bien préparé. Le personnel politique du Bangladesh est connu en Occident. Le changement d'équipe a eu lieu. Il faudra que cette équipe fasse ses preuves parce que les besoins quand même de la population sont là et la situation est compliquée, d'autant plus compliquée que cette espèce de coin que viennent enfoncer les États-Unis à cet endroit-là du globe fait de la peine aux Chinois, mais ils savaient qu'ils étaient visés, ils ont très bien vu venir le coup d'État, fait de la peine aussi aux Indiens. Parce qu'en fait, ils vont avoir un régime qui leur sera plus bangladais, mais beaucoup plus hostile que le régime de Madame Hasina, obéissant beaucoup plus aux États-Unis. Et à la limite, ça va obliger M. Modi à modérer ses positions nationalistes pour dire, après tout, cette espèce de coin enfoncé entre la Chine et moi m'oblige à réfléchir à quel type de relation je veux entretenir à terme avec mon voisin chinois. En sachant, et je terminerai là-dessus, qu'il faut bien comprendre, bien qu'on nous fasse croire le contraire tout le temps, c'est que la puissance économique indienne, c'est pas plus que la moitié de la puissance économique chinoise. Point. Alors on nous dit, ils sont 1,4 milliard des deux côtés. Oui, le problème, c'est qu'ils ne font pas la même chose et que l'Inde est loin derrière, en plus des problèmes sociaux qu'elle a, les problèmes de caste et tout. Il faut savoir, je le dis, il y a des gens qui sont musulmans en Inde pour échapper au système des castes. C'est-à-dire, vous êtes un maudit, enfin le bas de l'échelle sociale, hein, ce qu'on appelle un adivasi. Et donc, pour sortir de ce système de caste, hein, vous convertissez à l'islam, et du coup, dans l'islam, ben, tout le monde est égal. Hein, et donc, c'est comme ça que l'islam a du succès en Inde, parce que le système des castes est insupportable pour les plus pauvres. Voilà. On en reparlera sûrement beaucoup. Merci, Roselyne. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on passe, alors oui, je ne sais pas si on peut passer in fine. Donc, oui, on passe. Alors, j'explique. Alors, ce que vous allez entendre, c'est une chanson qui est connue de Joan Baez, qu'elle improvise, qu'elle écrit elle-même tout de suite après l'attaque de l'université de Dhaka par les troupes pakistanaises. Il faut expliquer qu'on n'avait pas des étudiants retranchés qui avaient fait des barricades, qui mettaient le feu. Ils ont été assassinés. Couchés dans les dortoirs avec une balle dans la nuque. Les soldats sont rentrés et ont liquidé 300 ou 400 étudiants qui dormaient. Et c'est pour ça que Joan Baez a fait cette chanson. The color of the line.